Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR, la Radio Mondiale Adventiste, est présentée par Oscar Miani. Nous sommes donc ensemble pour les 30 prochaines minutes. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par internet également, sur www.awr.org ou aussi grâce à votre téléphone au 01 80 14 44 77 si vous nous appelez depuis la France, ou bien au 00 33 1 80 14 44 77 si c'est en dehors de France, ou encore si vous nous écoutez depuis les États-Unis, c'est le 1 712 432 9978. Et il est important de signaler que ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Pour notre programme de ce dimanche, eh bien, nous vous proposons l'étude de la Bible de la semaine.
Jésus, l'encre de l'âme. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi, alors le Christ est mort pour rien. Galates 2 au verset 21. Hébreux 5 au verset 11 jusqu'à 26 au verset 20 interrompt la présentation théologique de la prêtrise de Jésus en notre faveur. Paul y introduit une mise en garde solennelle contre le danger qui consiste à s'éloigner de Christ. Apparemment, le peuple se trouvait sur une pente glissante et se laissait aller à l'apitoiement et à l'infidélité. L'apôtre Paul craint que ses lecteurs et ses auditeurs n'eût eu leur sens spirituel émoussé à cause des situations difficiles dans lesquelles ils se trouvaient et qu'ils aient ainsi cessé de grandir dans leur compréhension et leur vécu de l'Évangile. N'est-ce pas un danger potentiel pour nous tous de nous laisser décourager par les épreuves et ainsi de nous éloigner? La mise en garde solennelle s'achève cependant sur un encouragement plein d'affection. Paul exprime la foi en ses lecteurs et exalte Jésus comme l'incarnation de la promesse indéfectible du salut de Dieu pour eux, selon Hébreux 6 au verset 9 à 20. Ce cycle d'avertissement est suivi d'encouragement et se répète dans Hébreux 10, versets 26 à 39. Avoir été éclairé signifie avoir connu la conversion, selon Hébreux 10 au verset 32. Cela renvoie à ceux qui se sont détournés des ténèbres, du pouvoir de Satan pour se tourner vers la lumière de Dieu. Cela signifie la délivrance du péché et l'ignorance selon 1 Thessaloniciens 5, versets 4 et 5. La forme verbale indique ici que cette illumination est un acte de Dieu accompli à travers Jésus, le rayonnement de sa gloire. Avoir goûté le don céleste et avoir eu part à l'Esprit Saint sont des expressions synonymes. Le don de Dieu peut renvoyer à sa grâce, Romains 5, verset 15, ou à son Esprit selon lequel Dieu accorde cette grâce. Ceux qui ont goûté le Saint-Esprit ont connu la grâce de Dieu qui inclut la puissance pour accomplir sa volonté. Goûtez combien la parole de Dieu est bonne. C'est vivre personnellement la vérité de l'Évangile. Les puissances du monde à venir renvoient au miracle que Dieu accomplira pour les croyants à l'avenir, la résurrection selon Jean 5, versets 28 et 29, la transformation de nos corps et la vie éternelle. Mais les croyants commencent déjà à goûter tout cela dès aujourd'hui. Ils ont connu une résurrection spirituelle, selon Colossiens 2, versets 12 et 13, un esprit renouvelé selon Romains 12, verset 2, et la vie éternelle selon Jean 5, verset 24. Paul pense probablement à la génération du désert qui a connu la grâce de Dieu et son salut. La génération du désert était éclairée par la colonne de feu, avait profité du don céleste de la manne, avait fait l'expérience du Saint-Esprit, avait goûté la bonne parole de Dieu, les puissances du monde à venir, grâce à des prodiges et des signes au cours de leur délivrance de l'Égypte. Paul indique cependant que de la même manière que la génération des déserts avait abandonné Dieu malgré ses preuves, les auditeurs d'Hébreux risquaient de faire la même chose malgré toutes les preuves de la faveur de Dieu dont ils avaient bénéficié. Le texte original en grec met l'accent sur le mot « impossible ». Il est impossible pour Dieu de renouveler la repentance, ceux qui sont tombés parce qu'ils crucifiaient à nouveau le Fils de Dieu. Paul veut souligner qu'il n'y a aucun moyen de salut à part Christ. Le salut, par un autre moyen, est tout aussi impossible qu'il est impossible pour Dieu de mentir, ou que ça l'est de plaire à Dieu sans la foi. Crucifier à nouveau le Fils de Dieu est une expression imagée qui cherche à décrire quelque chose qui arrive dans la relation personnelle entre Jésus et le croyant. Quand les chefs religieux ont crucifié Jésus, ils l'ont fait parce que Jésus représentait une menace pour leur suprématie et leur autonomie. Ils espéraient ainsi éliminer Jésus en tant que personne et détruire un ennemi puissant et dangereux. De la même manière, l'Évangile défie la souveraineté et l'autodétermination de l'individu sur le plan fondamental. L'essence de la vie chrétienne, c'est de prendre sa croix et de renoncer à soi-même. Cela signifie crucifier le monde, l'homme ancien et la chair avec ses passions et ses désirs. Le but de la vie chrétienne, c'est que nous subissions un genre de mort. À moins de faire l'expérience de cette mort à soi-même, nous ne pouvons recevoir la nouvelle vie que Dieu veut nous donner. La lutte entre Jésus et le moi est une lutte à mort. C'est un combat difficile qui ne se gagne pas immédiatement. Ce passage ne parle pas de celui qui jure parfois dans cette bataille contre l'homme ancien et la chair. Ce péché renvoie à celui qui, après avoir connu le salut authentique et ce qu'il implique, décide que Jésus est une menace pour la vie et qu'il a envie de mener, et qui entreprend de tuer la relation qu'il entretient avec lui. Autrement dit, tant que la personne ne choisit pas de se détourner complètement de Christ, l'espoir de salut demeure. L'avertissement d'Hébreux 6 au verset 4 à 6 est très similaire à celui qui se trouve dans Hébreux 10 au verset 26 à 29. Paul explique que le rejet du sacrifice de Jésus laissera le lecteur démuni, sans aucun moyen de pardon des péchés, car il n'y a aucun autre moyen de salut en dehors de Jésus. L'auteur ne dit pas qu'il n'y a pas d'expiation pour tout péché commis après avoir reçu la connaissance de la vérité. Dieu a nommé Jésus comme notre avocat. Par lui, nous avons le pardon des péchés. Le péché pour lequel il n'y a pas de sacrifice ou d'expiation est décrit comme le piétinement du Fils de Dieu, la profanation du sang de l'Alliance et l'outrage du Saint-Esprit. Voyons le sens de ces expressions. L'expression « piétiner le Fils de Dieu » décrit le rejet du gouvernement de Dieu. Le titre « Fils de Dieu » rappelait aux éditeurs que Dieu a établi Jésus à sa droite et lui a promis de faire de ses ennemis un marchepied. Le fait de piétiner Jésus implique que l'apostat a traité Jésus comme un ennemi. Dans le contexte de la discussion de l'Épître, cela pourrait vouloir dire qu'en ce qui concerne l'apostat, Jésus a été détrôné et ce trône est désormais occupé par l'apostat lui-même et qu'il est devenu un marchepied à la place. C'est ce que Lucifer voulait faire au ciel et c'est ce que l'homme impie tentera de faire à l'avenir. L'expression « a profané le sang de l'Alliance » renvoie au rejet du sacrifice de Jésus. Elle implique que le sang de Jésus serait dépourvu de puissance purificatrice. L'expression « insulter l'esprit de la grâce » est très forte. En grec, le terme « embrisas », « insulte », « outrage » implique la manifestation d'un orgueil démesuré qui renvoie à l'insolence ou l'arrogance. Ce terme contraste de manière frappante avec la description du Saint-Esprit comme étant l'esprit de grâce. Cela explique que l'apostat a répondu à l'offre de grâce de Dieu par une insulte. L'apostat se trouve dans une position intenable. Il rejette Jésus, son sacrifice et le Saint-Esprit. Après l'avertissement sincère et fort d'Hébreux 6, versets 4 à 8, Paul exprime sa confiance en ses lecteurs. Ils ne se sont pas éloignés du Fils, ils ne le feront pas le venir. Il croit que ses auditeurs recevront l'avertissement et produiront les fruits adéquats. Ils sont comme la terre que Dieu cultive et qui produit les fruits qu'il attend. Ces personnes recevront la bénédiction de Dieu, qui est le salut. Les croyants montrent leur amour envers le nom de Dieu, c'est-à-dire envers Dieu lui-même, en servant les saints. Ce n'étaient pas des actes isolés dans le passé, mais des actions qui se sont prolongées dans le présent. Ce ne sont pas les actes exceptionnels qui révèlent le véritable caractère d'une personne. La preuve de l'amour de Dieu qui a le plus de poids ne sont pas les actes religieux en soi, mais les actes d'amour envers son prochain, notamment celui qui est défavorisé. Ainsi, Paul exhorte le croyant à ne pas oublier de faire le bien. Regardez Hébreux 6, verset 12. Ce verset nous met en garde contre la nonchalance ou la paresse, caractéristique de ceux qui ne mûrissent pas et qui risquent de s'éloigner. On ne garde pas l'espérance vivante en effectuant des exercices intellectuels de foi, mais la foi exprimée par des actes d'amour. Paul veut que ses lecteurs imitent ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses. Il a déjà présenté la génération du désert comme un exemple négatif de gens qui, par leur manque de foi et de persévérance, n'ont pas pu hériter de ce qui était promis. Il leur présente ensuite Abraham, selon Hébreux 6, versets 13 à 15, comme exemple de quelqu'un qui, par la foi et la patience, a hérité les promesses. La liste d'exemples positifs s'élargit avec les anciens de la foi d'Hébreux 11 et elle aboutit à Jésus dans Hébreux 12, qui est l'exemple suprême de foi et de patience. Ce sont la foi, la patience et l'observation des commandements qui caractérisent le saint des derniers jours. Parfois, nous devons donner des paroles d'avertissement aux gens que l'on aime. Paul termine sa mise en garde contre l'apostasie et son encouragement à l'amour et à la foi par une magnifique présentation enflammée de l'assurance en Christ. Dieu a garanti les promesses qu'il nous a faites de plusieurs manières. D'abord, Dieu a garanti sa promesse par un serment. D'après la Bible, les serments que Dieu avait faits à Abraham et David sont devenus le fondement de la confiance en la faveur permanente de Dieu pour Israël. Quand Moïse chercha à assurer le pardon de Dieu pour Israël après l'apostasie avec le veau d'or, il fit référence au serment de Dieu à Abraham. La force implicite de ce plaidoyer, c'était que le serment de Dieu était irrévocable. De la même manière, quand le psalmiste intercéda devant Dieu pour Israël, il se réclama du serment que Dieu avait fait à David. Dieu avait dit « Je ne mettrai pas fin à ma fidélité envers lui, je ne trahirai pas ma constance, je ne profanerai pas mon alliance, je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai fait un seul serment par ma sainteté, mentirai-je à David ?» Sa descendance subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune. Il sera fermement établi pour toujours. Le témoin qui est sur la nue est sûr. D'après le Nouveau Testament, les deux serments furent accomplis en Jésus. La postérité d'Abraham qui est montée au ciel et s'est mise sur le trône de David. Deuxièmement, Dieu a garanti les promesses qu'il nous a faites en faisant asseoir Jésus à sa droite. L'ascension de Jésus a pour but la confirmation de la promesse faite aux croyants, car Jésus est monté au ciel pour nous comme un précurseur. Ainsi, l'ascension nous révèle la certitude du salut de Dieu pour nous. Dieu a conduit Jésus vers la gloire par la souffrance de la mort pour vous, afin qu'un grand nombre de ses enfants participent à sa gloire. La présence de Jésus devant le Père est un ancre pour l'âme qui a été attachée au trône de Dieu. L'honneur du gouvernement de Dieu était en jeu dans l'accomplissement de sa promesse envers nous à travers Jésus. La guerre contre le moi est la plus grande qui ait été livrée. L'abandon de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu ne s'obtient pas sans combat. Mais cette soumission est nécessaire à notre transformation et à notre sanctification. Le meilleur chemin, page 39, Ellen White. Jean désirait ressembler à Jésus et sous l'influence transformatrice de cet amour du Sauveur, il devint humble et doux. Son moi disparaissait en Jésus. Plus que tous ses compagnons, l'apôtre s'abandonnait à la puissance de cette vie admirable. Cette profonde affection pour le Christ le poussait à se tenir toujours plus près de lui. Le Sauveur aime les douze. Mais Jean avait l'esprit le plus réceptif. Il était le plus jeune. Il ouvrait son cœur à Christ avec foi tout à fait candide. C'est pourquoi il vécut dans une plus grande intimité avec lui. Et par lui, le Sauveur communiqua au monde un enseignement de la plus haute spiritualité. La beauté de la sainteté qu'il avait transformée semblable à celle qui émanait de Christ rayonnait de sa personne. Dans l'adoration et dans l'amour, il contemplait le Sauveur jusqu'à ce que son unique désir ne fût plus que de lui ressembler et de le suivre. Son caractère était un reflet de celui de son maître. La vie de Jean, le disciple bien-aimé, et celle de Judas Iscariote sont en nette opposition. Quand Jésus vit Jean et son frère, il les appela Boanerges, fils du tonnerre. Jean avait de gros défauts, Judas avait aussi des défauts, mais ils n'étaient pas plus grands ou plus graves que ceux de Jean.
This is Adventist World Radio, the voice of hope.
Ici Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la Radio Mondiale Adventista,
la voce della speranza.
City called Glory, so bright and so fair. As I entered the gates, I cried, "Holy, the angels, they all met me there. They carried me from mansion to mansion. Oh, can you imagine the sights I saw? Then I said, I want to see Jesus. He's the one who died for me. Isaac,
Grace Notes, un rendez-vous hebdomadaire proposé par Bill Knott et Yves et Sylviane Santi pour la version française.
L'amour par-delà nos limites. Il est facile de faire preuve de bienveillance envers ceux qui reconnaissent leurs fautes et qui cherchent à se racheter. Cela met moins notre vertu à l'épreuve que les maths de troisième cycle ne le feraient pour un physicien. Mais que celui qui nous a blessés soit hostile ou refuse de reconnaître ses torts, et nous nous débattons comme un enfant de 8 ans confronté à un théorème. Notre plus grande vertu n'est pas reconnue par les pécheurs non repentis. Nous nous mordons les lèvres pour ne pas dire ce que nous savons, que tout est de leur faute et que nous avons toujours eu raison. C'est pourquoi Jésus nous met au défi en nous présentant la norme bien plus élevée de Dieu.
Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs en font autant. Aimez vos ennemis, faites-leur du bien, prêtez-leur sans vous attendre à être remboursé.
C'est ainsi que nous entrevoyons le cœur de Dieu qui, dans le chaos de notre entêtement, nous offre encore le pardon de tout cœur et avec bonté.
Mais Dieu, dans sa grâce, nous redresse gratuitement à ses yeux. Il l'a fait par Jésus-Christ en nous libérant du péché.
La grâce est le don étrange que Dieu nous fait et non une vertu que nous acquérons par la pratique ou la dévotion. Sa bonté entraîne notre bonté et nous pardonnons comme nous avons été pardonnés. Recevez son cadeau et restez dans la grâce.
Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche ? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. En dehors de France, vous rajoutez le 00 33, puis le 1 80 14 44 77. Et depuis les États-Unis, vous composez le 1 712 432 9978. Et pour nos coordonnées postales, eh bien, si vous voulez nous contacter, vous nous adressez vos demandes, vos courriers à la Voix de l'Espérance, IEBC, boîte postale 100 77 193 d'Amarie-Lélis, Cedex. Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous souhaite à présent une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain.